Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et l'on continue un tour de piste des différentes listes aux élections européennes. Un tour de piste débuté la semaine dernière. Nous sommes en compagnie de Thierry Mariani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur la liste du Rassemblement National. Nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures en vertu des temps calculés précisément par le CSA. Et je suis en compagnie de mon camarade Frédéric Saïs que je salue.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour
à tous. Frédéric. Thierry Mariani, quelle Europe voulez-vous?
On veut d'abord une Europe, mais on veut une Europe différente. C'est-à-dire qu'on veut une Europe en réalité qui protège ses frontières. On veut une Europe qui protège ses travailleurs ou qui protège ses entreprises. On veut une Europe qui soit aussi réellement indépendante et pas soumise à certains grands frères. Voilà. On peut aimer l'Europe, mais en regrettant la politique de Monsieur Juncker et en voulant une autre. Voilà. On peut aimer la France en regrettant la politique de Monsieur Macron, mais c'est la même chose pour l'Europe. Et donc, le Rassemblement National et la liste que nous présentons est très claire là-dessus. Avec nos alliés, italiens, autrichiens, nous voulons changer l'Europe de direction.
Qui sont ces grands frères?
Ces grands frères, je pense aux États-Unis, soyons clairs. Je veux dire, tout à l'heure, j'écoutais la revue de presse, vous parliez des États-Unis qui relancent leurs sanctions contre l'Iran. Iran, Venezuela, Russie, vous voyez qu'à chaque fois, les États-Unis prennent une position et que l'Europe suit. Moi, je rêve d'une Europe indépendante, comme le voulait le général de Gaulle.
Frédéric Saïs.
Indépendante, certes, mais vous êtes aussi l'un des artisans, l'un des avocats d'un rapprochement avec la Russie au sein du Rassemblement National. Vous avez d'ailleurs été député des Français de l'étranger pour cette grande zone Asie qui comprend la Russie. Est-ce que dans ce cadre-là, on se rappelle d'ailleurs que Marine Le Pen avait fait un déplacement à Moscou pendant la campagne présidentielle, elle avait rencontré le président Poutine en tête-à-tête. Est-ce que dans ce cadre-là, ce n'est pas passer d'un grand frère à un autre grand frère qui serait le pouvoir russe?
Non, parce qu'on a, j'allais dire, à la limite, on a besoin de deux grands frères à équivalence. Voilà, moi j'adore les États-Unis. J'en veux pas aux États-Unis d'être fort, j'en veux à l'Europe d'être faible, d'être lâche. La Russie, faut arrêter, c'est plus une menace aujourd'hui. Est-ce que vous savez que cette année, le budget militaire de la France est supérieur au budget militaire russe? C'est les derniers chiffres de l'Institut de Stockholm. Donc qu'on arrête de dire que la Russie représente une menace militaire, ou alors la France, je le répète, a un budget militaire supérieur. La Russie est quasiment le seul pays à baisser ses dépenses militaires. Vous croyez que quand on veut préparer la guerre, on baisse ses dépenses militaires? Alors arrêtons d'être entraînés par j'allais dire, cette spirale de guerre. L'Europe et la Russie ont des points communs. Il faut renouer le dialogue. Et on a des intérêts à partager. Et cette période de tension ouverte avec la crise ukrainienne doit cesser dans l'intérêt mutuel.
Thierry Mariani, la Russie n'est pas une menace peut-être en France aujourd'hui, mais elle est une menace, par exemple, pour le peuple syrien. Un hôpital de la région d'Idleb a été bombardé par des frappes russes cette nuit. Est-ce que ça ne mérite pas, à minima, une condamnation sévère?
La menace pour le peuple syrien, où je suis allé à de nombreuses reprises, c'est le terrorisme. La menace pour les chrétiens d'Orient qui massacrent dans une quasi-indifférence il y a 5-6 ans, c'est le terrorisme et c'est l'islamisme. Alors, excusez-moi, la Russie, comme l'armée syrienne, essaye tout simplement de retrouver une certaine souveraineté dans ce pays, de leur redonner une forme de paix dans une guerre,
malheureusement. En bombardant des hôpitaux ?
Comment ?
En bombardant des hôpitaux ?
En bombardant des hôpitaux, si ces hôpitaux sont en réalité des QG des terroristes. Je vous rappelle qu'à Idlib, c'est le même groupe terroriste, si j'ai bien écouté vos infos ce matin, qui sont présents au Bénin, c'est-à-dire Al-Qaïda. Donc voilà, c'est pas des gentils. Et si les Russes les combattent, si les Syriens les combattent, eh bien, ça fait des terroristes en moins. Je m'en félicite.
Frédéric Saïs.
Puisqu'on parle ce matin d'Europe, est-ce que vous souhaitez la fin totale des embargos européens sur la Russie? Votre programme est relativement flou sur ce point.
Non, c'est très clair. Comme les Italiens, nous souhaitons qu'il y ait des relations normales. Vous savez,
ce n'est pas ma question, pardon. Est-ce que vous souhaitez la fin totale des embargos?
Oui, les embargos économiques, oui, parce qu'en réalité, on se tire une balle dans le pied. Et puis en plus, ces embargos ont été faits en fonction de ce qui arrangeait les Américains. Je vous rappelle que nos produits agricoles sont sous embargo et sous sanctions, et que par contre, comme les Américains avaient besoin des Russes pour la station spatiale, le spatial n'est pas dans les embargos. C'est-à-dire que vous allez me faire croire que le spatial est moins stratégique que les pommes. Voyez, arrêtons d'être, je le répète, liés aux intérêts américains. Moi, je crois à l'intérêt de l'Europe et on a intérêt à arrêter ces sanctions et cet embargo.
Thierry Mariani, vous étiez jadis aux Républicains, vous avez rejoint le Rassemblement National. Pourquoi avoir fait ce choix alors même que Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy sont en quelque sorte dépositaires d'une ligne plus conservatrice? Bref, vous auriez très bien pu rester aux Républicains.
Si les Républicains avaient tenu le même discours à Bruxelles et à Paris, si les Républicains tenaient les mêmes actes avant et après les élections, oui, je serais resté. Le problème, vous me dites, Laurent Wauquiez, Bellamy ont un discours ferme, vous avez raison. Mais si je puis dire, on a déjà eu le coup avec Copé, on a déjà eu le coup avec Sarkozy. Voilà, les discours fermes avant les élections pour ensuite avoir des discours totalement, enfin des actes totalement différents après, je crois qu'on a donné. Moi, ce que je reproche à la droite française, c'est justement cette incohérence. Et quand vous regardez les votes à Bruxelles, eh bien, très souvent, on a des votes dans un sens, enfin des propos dans un sens à Paris et des votes dans un autre sens à Bruxelles. Le meilleur exemple, regardez par exemple sur ce qui s'est passé avec Orban. En septembre dernier, Laurent Wauquiez reçoit Orban, lui explique qu'on soutient ce que fait la Hongrie, on soutient votre politique. Et puis, à Bruxelles, seuls sur 20 députés issus des Républicains, 3 seulement votrent contre ces sanctions.
Mais il faut préciser que François-Xavier Bellamy, lui, souhaite que Orban reste dans le groupe du Parti populaire européen après les élections européennes.
Oui, mais quel sera le poids de M. Bellamy demain après les élections? Très franchement, dans le dernier débat, quand François Bayrou dit aujourd'hui les Républicains sont soumis à la CDU allemande, je crois que c'est hélas la réalité.
Il faut en tout cas préciser cette position. Vous parliez de fermeté à l'instant. Dans votre projet pour les européennes, il y a aussi des éléments qui ne sont pas vraiment du ressort des députés européens, c'est assez étonnant, ni même d'ailleurs des institutions européennes. Vous proposez par exemple de fermer les mosquées radicales, c'est page 11. Pardon, mais quel rapport avec la choucroute?
Quel rapport avec la choucroute dans les élections européennes? Ça vous permet aussi de rappeler certaines idées fortes sur lesquelles vous êtes attaché. Puis la lutte contre l'islamisme radical, la lutte contre le salafisme, ça passe aussi par une coopération internationale. Je vous rappelle qu'au niveau européen, il y a des programmes de coopération, notamment Eurojust par exemple.
Mais fermer les mosquées radicales, c'est de la prérogative d'un État.
Oui, mais pour savoir si elles sont radicales, c'est aussi par moments, grâce à des enquêtes internationales, qu'on arrive à le savoir. Et donc on a intérêt à lutter contre le terrorisme avec l'ensemble des pays qui sont menacés. Aujourd'hui, le terrorisme, il frappe aussi bien à Berlin qu'en France ou qu'ailleurs.
On continue avec vous, Thierry Mariani. Vous représentez la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Il y a aujourd'hui une polémique en France autour d'un conducteur de bus de la RATP qui aurait refusé de faire monter dans son bus une femme du fait d'une jupe qu'il jugeait trop courte. Et Jordan Bardella, qui est tête de liste aux européennes du Rassemblement National, considère qu'il faut faire un audit de la situation à la RATP. Est-ce que ça n'est pas peut-être une réponse excessive à ce qui pourrait passer comme un fait divers?
C'est un fait divers qui a tendance à se répéter. Je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, on a eu des incidents avec des employés de la RATP ou d'autres sociétés publiques qui, pour des raisons religieuses, refusent de faire telle ou telle chose. Quand on est dans un service public, on sert les hommes et les femmes, on sert qu'elles soient en jupe courte ou en jupe longue. Voilà. Et donc,
non,
ce genre
personne,
d'attitude.
Voilà. Personne, évidemment, mais ce genre doute. D'attitude. Mais est-ce que ça n'est pas une manière de faire monter la pression?
Non, parce que c'est une réalité aujourd'hui dans le service public hospitalier aussi, par exemple. On voit que ce genre de petit incident qui peut sembler insignifiant se multiplie. Et je pense qu'on a vraiment besoin de remettre les choses clairement sur la table. Quand on rentre dans le service public, quelle que soit sa religion, on a des obligations.
Allez, le service public continue avec vous, Frédéric Seyss.
De combien voulez-vous diminuer la contribution nette de la France au budget européen?
Aujourd'hui, on donne en gros 22 et on reçoit 13, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on est en déficit de 8-9, selon les années. Qu'on soit en déficit, c'est normal, parce qu'on est un État plus riche que la moyenne. Mais le déficit, il peut être réduit. D'autre part, je pense que le fait qu'on soit contributeur positif nous donne des droits. Quand, par exemple, certains de nos autres pays veulent réduire la politique agricole commune, qui est la seule politique qui bénéficie vraiment à la France, eh bien, ça nous donne le droit de taper sur le poing sur la table en
disant... Pardon, voulez-vous la supprimer?
Non, il est hors de... on n'a jamais dit qu'on voulait la supprimer.
C'est écrit dans votre programme. Commune. C'est écrit suppression de la politique agricole commune, remplacement par une politique agricole française, une PAF.
Oui, d'accord. Bon,
enfin, c'est écrit. Si vous ne connaissez pas votre programme, c'est gênant.
Il est évident que la politique agricole que nous souhaitons, c'est un soutien maintenu aux agriculteurs. Je vous rappelle qu'au contraire, c'est le programme d'En Marche, avec ses alliés, plutôt les alliés d'En Marche, qui veulent une réduction de la politique agricole commune de 10%.
C'est écrit page 15, hein,
je précise pour ceux qui veulent vérifier. Quel que soit le nom, oui, on veut recentrer en réalité la politique commune sur des priorités françaises. Mais il est évident que les moyens financiers de la politique agricole, on veut qu'ils continuent et qu'ils soient maintenus.
Mais alors, c'est justement ça qui est compliqué dans votre programme. On a du mal à vous suivre, Thierry Mariani, on a du mal à suivre le Rassemblement National, tout simplement parce qu'on a l'impression que vous souhaitez une Europe française qui ne serait donc pas une Europe, et finalement vous souhaitez un Frexit qui ne dit pas son nom.
Non, pas du tout. On souhaite une Europe. On souhaite une Europe. On a presque envie, j'allais dire, de revenir un peu à ce qu'était l'origine de l'Europe. Je vous rappelle que quand on était au tout début de la construction européenne avec 6 États, la souveraineté était beaucoup mieux respectée. On avait des priorités nationales qui pouvaient être défendues. Là aujourd'hui,
à 28, ça peut pas marcher.
Non. Alors ça ne peut marcher que s'il y a des programmes, j'allais dire, spécifiques.
Alors il faut faire sortir qui,
Thierry? Il faut faire sortir personne, mais il faut tout simplement que certains États aient par moment la possibilité de se mettre en dehors dans certains programmes. Où, regarde, on reprend toujours l'exemple de l'Airbus. L'Airbus a réussi en dehors de l'Europe et c'est quelques États qui sont associés. Il y a une décision extrêmement importante qui est passée totalement inaperçue le 30 avril, parce qu'il y avait Gilets jaunes et 1er mai. Je vous rappelle que sur le CETA, c'est-à-dire le traité avec le Canada, désormais, la Cour européenne de justice vient de valider le fait que les multinationales pourraient attaquer les lois des États en passant par une justice arbitrale. Voilà l'exemple de choses sur lesquelles on est totalement opposé et qu'on ne peut pas accepter.
Frédéric Seitz.
Vous voulez également supprimer dans votre programme l'aide à la Turquie pour la prise en charge des migrants liés à la crise syrienne. Ça représente 1,5 milliard d'euros, cette aide. Si vous l'annulez, est-ce que demain, précisément, les migrants ne viendront pas en Europe, puisque la Turquie les laissera partir? Et n'est-ce pas absolument contradictoire avec votre programme qui est de justement empêcher l'arrivée de migrants en Europe?
Non, c'est très cohérent. Je veux dire, aujourd'hui on est l'otage de la Turquie, qui nous tient en réalité et qui nous fait cracher au bassinet pour bloquer les migrants, qu'elle lâche quand ça l'arrange, et d'ailleurs elle lâche ceux qui l'arrangent. Je veux dire, la Turquie c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en clair, elle sélectionne, si elle veut nous renvoyer les terroristes, elle nous renvoie les terroristes, pour être très clair.
Voilà. Vous accusez Ankara d'envoyer les terroristes?
J'accuse Ankara d'avoir une vraie politique internationale, et tout à l'heure on parlait d'Idlib, on sait très bien que c'est des terroristes qui sont proches des Turcs. Si les Turcs veulent les exfiltrer et nous les envoyer vers l'Europe, bienvenue au club. Non, la vraie politique en matière de migration, c'est pas de négocier avec la Turquie ceux qui nous envoient ou ceux qui gardent, c'est de bloquer les frontières. Voilà. Deuxièmement, on veut aussi supprimer ces crédits parce que le message est très clair pour nous. Il n'est pas question que la Turquie adhère un jour à l'Union européenne. On a des accords à passer avec eux en matière économique, mais pas une adhésion à l'Union européenne. Et donc autant arrêter tous ces programmes.
Thierry Mariani, votre position par rapport aux Gilets jaunes, de quel côté êtes-vous? Comment voyez-vous la situation?
On n'est pas d'un côté. Je veux dire, moi, je refuse le débat macronien, si je puis dire. Est-ce qu'on est pour les policiers ou pour les Gilets jaunes? D'abord, on est pour l'ordre et contre le caillassage, les cassages et les violences, quelles qu'elles soient, des Gilets jaunes ou par moment, on peut se poser des questions quand on voit certaines vidéos de la police. Voilà, après les Gilets jaunes, aujourd'hui...
Vous pensez que la police se livre à des caillassages ou alors vous faites référence
à
une vidéo.
Je dis qu'il y a des vidéos de violence ou par moment.
À ma connaissance, une seule, mais voilà, peut-être y en a-t-il d'autres.
Des vidéos de violence, il y en a des dizaines sur Internet.
Non, je ne parle pas des vidéos de violence, je parle des vidéos, une vidéo qui montre sur un policier jeté.
Attendons l'enquête de l'IGPN, on verra. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les violences sont condamnables des deux côtés, Gilets jaunes en premier, enfin Gilets jaunes ou Black Blocs plutôt en premier. Voilà. Est-ce qu'on est gilet jaune ou est-ce qu'on est policier? Gilet jaune, il y a des revendications de classe, on va dire, française, laborieuse, qui ont des petits salaires, qui s'en sortent plus. Et ces revendications-là, on les écoute. Mais j'ai envie de vous dire aussi, j'écoute aussi les policiers, quand je rencontre des policiers qui m'expliquent que leurs heures supplémentaires ne sont pas payées depuis un an ou deux ans, ou enfin des mois et des mois. Mais dans quelle entreprise française on accepterait ça? L'inspection du travail massacrerait le chef d'entreprise qui ferait comme l'État sur les policiers. Donc il faut que le calme revienne. Et la solution, les politiques, c'est la solution, c'est le président qui la tient.
Mais alors, cette solution, parce que jadis, Thierry Mariani, vous apparteniez plutôt aux libéraux parmi les républicains. Et donc, est-ce que, par exemple, ça n'est pas un peu facile de s'offusquer aujourd'hui de la suppression de l'ISF que vous réclamiez hier?
J'ai dit qu'à titre personnel, moi j'étais pour la suppression de l'ISF programmée. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a choqué les Gilets jaunes? C'est qu'on commence tout de suite par des cadeaux pour une seule catégorie. Je persiste à dire, et c'est l'un des très léger point sur lequel je suis en désaccord avec Marine Le Pen, qu'à terme, il faudra supprimer cet impôt. Mais on a fait les choses à l'envers, d'abord. On a supprimé l'impôt sur les capitaux nomades, en gardant un impôt, je vous rappelle, sur la fortune immobilière, alors qu'à notre avis, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Et ensuite, il faut d'abord, si possible, faire des gestes vis-à-vis de la population la plus laborieuse, celle qui est en difficulté, et après, pour la population la plus aisée.
Frédéric Seitz.
Parlons des institutions européennes. Si vous êtes élu demain au au Parlement de Bruxelles et Strasbourg, hein, puisque le Parlement européen se réunit dans ces deux endroits. Est-ce que vous souhaitez changer les prérogatives des députés européens qui, je le rappelle, aujourd'hui n'ont pas le pouvoir d'initiative législative? Ils votent des textes proposés par la Commission, ils les amendent, mais ils ne peuvent pas les proposer eux-mêmes.
Oui, c'est dans notre programme. Aujourd'hui, le Parlement européen est un Parlement à moitié paralysé. C'est-à-dire qu'en réalité, le Parlement français, belge ou n'importe lequel, a le pouvoir d'initiative. Les députés français, majorité ou opposition, peuvent présenter des projets de loi. Au Parlement européen, c'est impossible. C'est la Commission qui a le monopole de l'initiative, comme on dit. Et donc, nous, on veut que ce monopole de l'initiative soit en réalité partagé avec le Parlement européen. La Commission, c'est uniquement des gens nommés. On est dans un vrai déni démocratique en matière de fonctionnement de l'Union européenne. Un vrai Parlement, c'est un Parlement qui pourrait prendre des initiatives. Donc oui, nous voulons que ces institutions changent.
Vous voulez même supprimer la Commission, c'est ça?
On veut supprimer la Commission, on veut que ça devienne tout simplement un secrétariat administratif, ce que ça devrait être. Aujourd'hui, la Commission, de mémoire, c'est à peu près 30 000 employés.
34 000 fonctionnaires.
34 000, merci. 34 000, donc j'étais en dessous de la réalité en plus. On veut tout simplement que ce soit des personnes élues qui dirigent. Voilà, il y a un vrai problème démocratique.
Il y a besoin
Europe.
D'une expertise tout de même sur des sujets aussi complexes que celles qu'elle gère. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a aussi besoin d'experts.
Vous avez raison, mais les experts proposent, les élus disposent. Voilà, je veux dire, vous savez, dans les cabinets ministériels, il y a des conseillers qui sont des vrais experts, mais c'est le ministre qui choisit. Moi, je veux tout simplement qu'à un moment, ce soit aussi les parlementaires qui choisissent, ça s'appelle la démocratie. Autrement, c'est un gouvernement d'experts.
Alors justement, sur la politique, Thierry Mariani, en matière de politique économique européenne, quels sont les souhaits du Rassemblement national? Là aussi, on a du mal à voir où est le programme du Rassemblement national.
Il s'articule sur deux points clés, mais qu'on peut décliner. D'abord, on veut un juste échange et non plus un libre-échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le libre-échange, nos agriculteurs ou nos entreprises sont en pleine concurrence avec des gens qui ne respectent pas les mêmes obligations.
Vous êtes devenu à gauche, quoi?
Non, je ne suis pas devenu à gauche, je suis devenu juste. Et d'autre part, il y a des moments où on s'aperçoit qu'il faut des ajustements. Et puis deuxièmement...
Vous venez de dire que la gauche, c'est juste.
Quoi?
Non,
la gauche, il y a des choses bien dans la gauche, il y a des choses bien dans la droite.
Vous êtes devenu macronien.
Non, je ne suis pas devenu macronien, je suis devenu pratique. Voilà, je pense qu'en politique, il faut toujours douter, se poser des questions. Voilà, moi j'ai pas la vérité, j'essaye de l'approcher. Deuxièmement, il y a le juste échange, et puis ce juste échange, eh bien c'est tout simplement, je le répète, pour mettre nos entreprises à égalité de concurrence avec les autres, et puis d'autre part ce qu'on appelle le localisme, parce que par exemple des choses qui viennent de plus loin forcément polluent plus, coûtent plus, et donc doivent peut-être être taxées plus. Le localisme, c'est favoriser la production qui est proche de chez nous.
Une dernière question, Thierry Mariani, est-ce que vous êtes en faveur de l'austérité ou au contraire radicalement hostile à ce type de politique économique à l'échelle européenne?
Je ne sais pas ce que c'est que l'austérité. Moi, je suis pour qu'il y ait une politique juste. Voilà, c'est ni de gauche ni de droite. L'austérité, c'est un concept que veut nous imposer.
Est-ce que vous considérez, par exemple, que les dettes doivent être diminuées en priorité, les dettes nationales?
Je considère que les dettes doivent être diminuées, mais que la priorité, c'est quand même l'emploi. Et aujourd'hui, l'Union européenne est la zone qui, ces 10 dernières années, a connu la plus faible croissance au monde, parce qu'à force d'être obsédée par l'inflation, on en a oublié que la priorité, c'est donner un boulot, donner un salaire aux gens.
Merci Thierry Mariani pour la liste du Rassemblement National. Dans quelques instants, nous continuerons à entendre d'autres listes, notamment la liste Europe Écologie Les Verts, représentée par Marie Toussaint, et la liste Génération avec Benoît Hamon. Il est 8h sur France Culture.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h. Guillaume Erner.
8h22, nous continuons à entendre donc les candidats, les listes aux élections européennes. Bonjour Marie Toussaint, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes en vertu donc des temps de parole calculés par le CSA. Vous représentez la liste Europe Écologie Les Verts. Quelle Europe voulez-vous?
Bonjour. L'Europe que je veux et que nous portons avec les écologistes et Yannick Jadot, c'est une Europe qui agit pour le climat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire d'un réchauffement qui est dévastateur et dramatique, qui a des conséquences importantes, qui a d'ailleurs des conséquences pour l'égalité sociale, pour les droits de chacune et de chacun. Donc, on a besoin d'agir. Et aujourd'hui, se termine aussi le GIEC de la biodiversité, donc ces experts scientifiques du monde entier qui se réunissent et qui, eux aussi, tirent la sonnette d'alarme. Climat, biodiversité, eau, la vie sur Terre est en danger et donc on a besoin d'une Europe qui la protège.
Comment cela? Comment l'Europe pourrait-elle protéger cette biodiversité et contrer le réchauffement climatique? Comment agir à l'échelle européenne selon vous?
On peut faire beaucoup de choses au niveau de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques ne sont pas assez ambitieuses pour protéger la vie sur Terre. Donc avec les écologistes, ce qu'on propose d'abord et avant tout, c'est une loi des lois, un traité environnemental qui pourrait graver dans le marbre l'obligation d'agir d'abord pour le climat et pour la biodiversité, qui reconnaîtrait aussi des droits à la nature, qui pénaliserait les crimes contre l'environnement, en premier lieu desquels les écocides, ces graves crimes contre la sûreté de la planète, et qui dirait que toutes les autres règles, finalement, celles sur la recherche de la croissance, par exemple, évidemment les écologistes ne sont pas très pour la recherche infinie de la croissance, c'est moins qu'on puisse dire, mais les règles sur le déficit public, les règles sur la dette, eh bien ça passe derrière cette obligation de rechercher une Europe qui respecte l'empreinte écologique d'une seule planète.
Ça passe derrière. Frédéric Seize.
On va pouvoir, grâce à vous Marie Toussaint, ce matin peut-être sortir d'une ambiguïté qui a été reprochée de bonne ou de mauvaise foi à Yannick Jadot par les autres listes de gauche. Il a déclaré dans une interview au Figaro qu'il était favorable à la libre entreprise et à l'économie de marché. Alors immédiatement ça a suscité des hauts cris, notamment chez la France insoumise. Selon vous, l'économie de marché, avec tout ce que ça suppose d'échanges internationaux, parfois de longues distances, de super tankers qui polluent beaucoup, n'est pas incompatible avec votre démarche écologiste?
Alors, pour remettre les mots de Yannick Jadot dans leur contexte, d'abord, les écologistes, nous sommes pour les communs. Ça veut dire quoi les communs? Ça veut dire qu'on sort un certain nombre d'éléments, notamment toutes les entités vivantes, ces communs naturels, du marché, parce que, et on le voit bien aujourd'hui, Yannick Jadot monte et mène le combat contre cette marchandisation, qu'on est en train de vendre, et notamment en France, nos fleuves et nos barrages, nos forêts, nos zones maritimes. Voilà, donc ça, on y met fin, on doit protéger ces communs naturels.
Comment y mettre fin? Parce que, par exemple, sur les forêts, il y a des individus, des entreprises qui possèdent des forêts en France.
Oui, mais alors, vous savez, dans l'histoire, on a décidé à plusieurs reprises qu'il y avait des choses qui n'avaient pas lieu d'être sur le marché. Je pense par exemple à l'éducation nationale. Eh bien là, on pourrait tout à fait décider que les éléments naturels soient retirés du marché et qu'ils puissent être gérés soit par l'État, soit effectivement par des citoyennes et des citoyens dans des partenariats qu'on appelle des partenariats publics communs.
Bon, mais alors c'est déjà le cas avec l'Office national des forêts, mais alors vous renationalisez les forêts ?
Pas tout à fait. C'est intéressant ce débat-là. Reconnaître des communs, ça veut dire qu'on empêche qu'ils soient bradés, qu'on refuse de donner un prix à la nature. Ça veut aussi dire qu'on invente des nouvelles manières de s'organiser autour de ces communs-là. J'ai déjà fait plusieurs interventions sur votre antenne à ce sujet-là, mais ça veut dire qu'on décide que les éléments naturels doivent se voir reconnaître leur droit de se renouveler. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête de ponctionner, par exemple, des arbres. Ça veut juste dire qu'on laisse aux écosystèmes le temps et le rythme de se régénérer, qu'on les protège et qu'on dise qu'effectivement, il n'y a pas de bénéfice économique, il ne doit pas y avoir de recherche de bénéfice économique sur la gestion de ces communs, mais au contraire, une recherche de préservation de la vie, simplement.
Et sur l'économie de marché, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question.
Donc, l'économie d'abord, c'est-à-dire qu'on retire les communs naturels, ensuite qu'on met fin à une économie qui est dopée par des subventions là où l'économie ne marche pas. Je pense par exemple aux centrales à charbon. On a décidé dans l'Union européenne de mettre fin aux centrales à charbon, mais 54% d'entre elles sont déficitaires. Et vous savez que chaque année, l'Union européenne donne 112 milliards d'euros de subventions aux industries fossiles et polluantes. Donc ça veut dire aussi qu'on met fin à toute cette économie-là, qui est une économie toxique ou sans application du principe pollueur-payeur. Et donc dans le cadre du reste, c'est-à-dire pour, par exemple, les énergies renouvelables. On sait que les énergies renouvelables, elles fonctionnent aujourd'hui mieux, qu'elles sont plus rentables que l'énergie nucléaire ou que le fossile. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, une économie de marché peut prendre sa place.
Votre liste est-elle de gauche ?
Notre liste est écologiste, d'abord et avant tout. Mais elle est aussi solidaire. Et donc, dans certains cas, on peut se dire, oui, ça répond à des valeurs de gauche. Mais ce que j'aimerais vous dire, je prends une minute pour vous l'expliquer. Il y a eu un moment où l'écologie était une idéologie qui était dans les réflexions des penseurs à l'époque du socialisme, du marxisme, etc. Il y a eu un moment, il y a un pacte qui a été passé, notamment entre la droite et la gauche, et qui a dit on fait le productivisme, on fait la recherche de la croissance. Eh bien, c'est ce modèle-là qui est à bout de souffle aujourd'hui, c'est ce modèle-là auquel il faut mettre fin et remettre au cœur de notre projet, non pas ce que je disais tout à l'heure, la recherche de la croissance, le déficit, l'austérité, c'est pas ce projet-là que nous voulons. Nous voulons un projet du bien-vivre, de l'harmonie harmonie avec le vivant, qui tiennent compte de toutes et tous, au sein de l'Union européenne, mais aussi avec le reste des pays du monde.
Donc vous ne souhaitez pas être étiqueté à gauche, c'est ça que j'entends dans votre réponse.
Nous sommes écologistes.
Très bien.
Mais alors, là aussi, aujourd'hui, la quasi-totalité des partis qui se présentent aux élections européennes sont, sinon écologistes, du moins ont une part de leur programme qui renvoie à l'écologie. Par exemple, le Rassemblement national que nous avons reçu avant le journal, eh bien, ils considèrent que l'écologie, c'est un terme qui doit être entendu de manière extrêmement extensive et qu'il y a aussi une écologie des peuples. En quoi vous distinguez-vous, par exemple, de cette acception de l'écologie, Marie Toussaint ?
Alors, vous avez raison, il y a de plus en plus de monde qui parle d'écologie. D'ailleurs, le Front National, c'est quand même assez grotesque. Hein. Et puis, on sait que leurs partenaires dans le monde mènent des politiques anti-écologiques. Mais on voit aussi des pubs avec des 4x4 devant des magnifiques montagnes, comme si acheter un 4x4 allait protéger les montagnes. Donc, être écologiste, ça veut dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, vouloir l'harmonie entre les êtres. Ça veut dire vouloir la solidarité. Ça veut dire, par exemple, que dans une planète qui est en train de se dégrader à vitesse grand V, eh ben, on reconnaît le fait qu'il y a des populations, par exemple au Bangladesh, par exemple en Afrique australe avec le cyclone Idai, par exemple au Nigeria, qui sont plus touchées par ce dérèglement. Vous savez, il y a une étude de Stanford qui est sortie la semaine dernière qui nous indique que dans les 25 dernières années, les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud ont été accrues de 25% du simple fait du réchauffement climatique qui a été causé par les pays du Nord. Donc voilà, une Europe écologiste, c'est une Europe solidaire et qui accueille aussi les réfugiés sur son territoire.
Frédéric, dans votre programme, vous proposez de sortir les dépenses écologiques du déficit budgétaire. Autrement dit, les dépenses vertes ne seront plus comptées dans les 3%. Dit comme ça, ça a l'air de tomber sous le sens. Effectivement, c'est un investissement pour l'avenir. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas en sortir aussi, par exemple, les dépenses sociales? Pourquoi pas la recherche? Pourquoi pas, comme certains le proposent, la lutte contre le terrorisme? Autant annuler tout bonnement la règle des 3%. Pourquoi vous n'allez pas jusque-là?
C'est une proposition que vous faites?
Non, on l'entend beaucoup dans le débat public. Il y a beaucoup d'investissements utiles qui pourraient être décomptés de ces 3%. Pourquoi ne pas tout simplement annuler cette règle des 3%? Est-ce que ce ne serait pas moins hypocrite?
Alors écoutez, nous on dit il faut un traité environnemental qui chapeaute toutes les autres règles et qui permette et qui vise le respect des limites planétaires, le retour à une empreinte écologique d'une seule planète. Donc c'est ça qu'on veut comme règle fondamentale. Maintenant, en proposition d'urgence, effectivement, on dit, on n'est pas les seuls à le dire, par exemple Alain Grandjean, Gaël Giraud font cette proposition depuis longtemps, qu'il faut sortir les dépenses d'investissement du calcul de déficit en matière d'écologie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de toute urgence de se bagarrer pour la protection du climat et de la biodiversité.
Bon, il y a également dans votre programme, dans vos propositions, Marie Toussaint étant celle donc d'Europe Écologie des Verts, un certain nombre de constats, de propositions qui ne sont pas du tout consensuelles, notamment hier dans Le Parisien, vous avez donné une tribune et dans cette tribune, vous évoquez la réintroduction du loup pour lutter contre l'affaiblissement de la biodiversité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand nombre d'éleveurs en France qui souffrent du loup et qui par conséquent sont absolument opposés à sa réintroduction. Qu'en faites-vous de ces gens-là ?
Je comprends absolument les réticences. C'est quand on parle de la sortie des pesticides, quand on parle de la sortie du pétrole, quand on parle de la réintroduction des espèces sauvages, on introduit effectivement une révolution dans un mode de société, dans un modèle de société qu'on a prôné pendant longtemps. On nous a rendu dépendants du pétrole, notamment en arrêtant d'investir dans le train. On nous a rendu dépendants et on a incité les agriculteurs et les agricultrices à utiliser des pesticides.
Là, je parle du loup.
À entrer dans ce modèle-là. Oui, mais ça va ensemble. Parce qu'on a aussi habitué les éleveurs et les agriculteurs, les agricultrices qui vivent dans les zones où il y avait des loups auparavant. On a enlevé le loup et on a enlevé toute habitude de vivre avec le loup. Or, il y a beaucoup de recherches qui sont menées.
Vous ne pouvez pas vivre avec le loup quand vous êtes un petit éleveur.
Eh bien si, justement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées sur les animaux sauvages. Par exemple, Baptiste Morisot, qui a écrit Les Diplomates, qui montre bien qu'il y a des endroits du monde où on a préserver cette façon de faire qui nous permet de vivre en harmonie avec le loup. Le loup, il vient pas nous attaquer par plaisir. C'est pas ça le sujet. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ces espèces-là. Et je vais même aller plus loin. On a besoin de ces espèces sauvages pour préserver la vie sur Terre, pour préserver aussi la vie humaine sur Terre. Et donc, il faut qu'on réapprenne à vivre avec le vivant. C'est tout à fait possible et c'est même très moderne parce que dans la tribune que vous citez, que j'ai sortie hier sur Le Parisien, je parle du loup dans le parc du Yellowstone, je parle des baleines dans l'Hudson River.
Qui n'est pas un lieu où justement on pratique l'élevage.
Non, mais dans des pays comme les États-Unis, on a réappris à vivre avec la vie sauvage.
Oui, mais dans le parc de Yellowstone, il n'y a pas d'éleveur. Juste une chose pour en terminer avec cette question. Est-ce que le risque, ce n'est pas tout simplement de favoriser les très grands élevages avec des bêtes qui sont parquées et qui là, effectivement, eh bien, n'ont pas à redouter le loup?
Vous savez bien que ce n'est pas du tout la proposition des écologistes qui, au contraire, poussent à ce qu'on puisse avoir plus de paysannes et plus de paysans sur des exploitations peut-être plus petites, mais qui reçoivent une plus juste rémunération.
Frédéric, il y a un mot important également dans votre programme, c'est l'harmonisation. Vous proposez notamment un salaire minimum européen dans chaque État membre à hauteur de 60% du salaire médian de chaque pays. Cela ferait en France 1063 euros net, ça veut dire moins que le SMIC. C'est une proposition qui ne va pas faire que des euros parmi les personnes qui touchent le SMIC.
Oui, mais vous savez, on propose aussi un revenu minimum pour chaque Européenne et chaque Européen. Il y a des pays où il n'y existe rien du tout, c'est-à-dire ni revenu jeunesse, mais on n'en a pas en France pour le coup. Ni retraite. Et donc on a besoin d'avancer, on a besoin d'emmener l'ensemble des pays de l'Union européenne avec nous. Et donc il faut coopérer et faire preuve de solidarité pour aussi effectuer les transferts de fonds, etc. Donc on a besoin d'avancer sur ces questions-là. Il y a des pays qui sont très loin et on a besoin de les accompagner vers un modèle social plus élevé, ce qui n'empêche pas le fait qu'on doit préserver absolument les acquis sociaux en France.
Mais alors, justement, Marie Toussaint, pourquoi être solidaire avec des gens qui en font moins que nous? Je veux dire, la France est finalement plutôt une très bonne élève de l'Europe. Est-il normal que ce soit les Français, par exemple, qui souhaitent continuer à rouler avec une voiture diesel, qui payent en quelque sorte les efforts qui sont réclamés aux Européens?
En quelle matière la France est meilleure, l'une des meilleures
élèves
de l'Europe?
Par exemple, du fait du poids de notre énergie nucléaire, il y a bien évidemment un bilan carbone.
Mais vous savez, je pense qu'on l'a montré, enfin l'affaire du siècle montre bien quoi. Aujourd'hui, la France, d'abord les lois climat de la France, nous emmènent vers un réchauffement de plus 2,6 degrés. En plus de ça, elle ne respecte aucun de ses objectifs climatiques. Donc elle n'est pas du tout en avance, c'est pas vrai. Et elle se doit d'être exemplaire parce que l'Europe et les États-Unis sont responsables historiquement de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc aujourd'hui, on est loin d'être exemplaire. Et en plus de ça, on doit acquitter notre dette vis-à-vis des pays.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour ces Français qui ont une voiture diesel et qui ont évidemment besoin de cette voiture pour continuer à se déplacer?
Mais c'est très simple, on l'a dit à plusieurs reprises aussi, la justice climatique et la justice sociale, ça va ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous a rendu dépendants du pétrole, il faut réinvestir dans le train, il faut accompagner aussi les régions françaises ou les régions d'Europe, par exemple la Pologne, à sortir des énergies fossiles. Il faut protéger les parcours des individus, ne laisser personne de côté, il faut une Europe du droit à l'emploi pour chacun.
Et une dernière question,
et interdire, pour rebondir sur votre question Guillaume, interdire les véhicules thermiques, c'est-à-dire essence, diesel, à une certaine date, et si oui, quand?
Mais bientôt, le plus vite possible. Écoutez, moi, je suis pas. Je vous dis, il y a urgence. Le GIEC nous a dit qu'il fallait qu'on atteigne un pic d'émissions en 2020, c'est-à-dire demain. Donc l'Europe des écologistes, et c'est pour ça qu'on propose ce traité environnemental, c'est une Europe qui fait tout et qui agit le plus vite possible pour protéger l'environnement.
Merci Marie Toussaint, vous représentiez ici la liste Europe Écologie Les Verts, et nous recevons une autre liste, la liste Génération, avec un S. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Vous êtes la tête de liste de Génération.
Bonjour à Marie Toussaint.
Et tout d'abord Benoît Hamon, quelle Europe voulez-vous?
Quelle Europe voulons-nous? J'ai envie de vous dire qu'on est un vrai carrefour. Je pense que le projet européen est menacé. Il est menacé à la fois par la pression des nationalistes et par le fait que les libéraux leur cèdent. Et leur cèdent sur l'essentiel les libertés. Aujourd'hui, la liberté de circulation est menacée en Europe, puisque même le président Macron veut remettre en cause Schengen. La liberté de disposer de son propre corps pour les femmes est menacée par les pressions qui existent sur le droit à l'avortement. La liberté de manifester en France est menacée. Les libertés politiques sont menacées en Espagne quand on met en prison des hommes et des femmes qui ont voulu organiser un référendum, et pas davantage qu'un référendum, en Catalogne, indépendamment de ce qu'on peut penser de la question catalane. Et je pense aujourd'hui que l'Europe est menacée d'abord parce que les libertés en son sein y sont menacées, donc la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons placé, nous, notre campagne européenne autour ou sous le chapeau des libertés, parce que nous jugeons aujourd'hui que ce qui a commencé à se défaire par le très mauvais accueil aux migrants, par le fait de leur fermer la porte, par le fait de leur préférer la liberté de circulation des biens, des marchandises et des capitaux à travers tous les traités de libre-échange, plutôt que le devoir humanitaire de prendre en charge ceux qui ont le moins, nous pensons que ce qui a commencé là explique aujourd'hui le fait que les libertés reculent partout en Europe, y compris dans notre pays. Donc quelle est l'Europe que je souhaite? Quelle est l'Europe que nous voulons? Ben, nous voulons une Europe des libertés, une Europe dans laquelle nous puissions collectivement à nouveau nous épanouir. Et nous épanouir, ça suppose évidemment de traiter la question écologique comme la question sociale. Et on reviendra peut-être sur la question du SMIC européen. Mais cette question est une question importante parce que finalement, elle sépare celles et ceux qui ne pensent pas qu'il puisse y avoir de progrès sociaux pour tous et ceux qui pensent encore que ça peut s'améliorer partout. Et la cible que l'on fixe sur le salaire minimum européen, entre celle qui est proposée par Madame Loiseau, celle qui est proposée par les Verts et le Parti Socialiste, par exemple, ou celle que nous proposons, dit tout du niveau d'optimisme et de confiance que nous avons dans le projet européen. Nous nous sommes encore confiants et optimistes.
C'est Frédéric Seitz, en l'occurrence.
Nous considérons, et c'est frappant de voir que des partis de gauche l'ignorent, qu'il faut partir déjà de ce que le Parlement européen a voté. Prendre l'Europe au sérieux, c'est déjà prendre le travail du Parlement européen au sérieux. Quand le Parlement européen fixe comme cible pour le salaire minimum européen, le Parlement européen, dans sa dernière mouture, 60% du salaire moyen, alors on va dire 60% du salaire médian, 60% du salaire moyen, tout ça est très techno, mais ça fait une grosse différence. En l'occurrence, pour la France, ce serait 1 340 € net. Donc évidemment, un gain de pouvoir d'achat notable. Que dit le Parlement européen? C'est qu'il faut cesser d'opposer les travailleurs de l'Est aux travailleurs de l'Ouest. Que fondamentalement, les inégalités, quand elles existent entre ceux qui travaillent ici et ceux qui vivent de la rente, du capital, dans chacun de ces pays. Et qu'il faut donc répartir différemment la richesse et que fixer une cible de salaire minimum qui serait en deçà du salaire minimum dans un certain nombre de pays serait donner un moyen de pression au patronat européen, au patronat des États membres, tel qu'il conduirait à la remise en cause d'un certain nombre des acquis sociaux en Europe. C'est pour ça que nous fixons une cible qui est celle déjà fixée par le Parlement européen, 60% du salaire moyen, pour permettre à tous les travailleurs d'améliorer leur situation.
Frédéric Seitz. Et sur la question de cette harmonisation, dans votre programme, vous souhaitez aussi un ISF européen. Est-ce que ce n'est pas aussi une atteinte à la souveraineté fiscale de chaque pays? Parce qu'avec cette logique, demain, si d'autres pays veulent baisser l'impôt sur les sociétés en France, est-ce qu'on pourra s'y opposer?
Écoutez, nous, on souhaite qu'il y ait de l'harmonisation à travers le fait que la richesse soit taxée le plus justement possible, parce qu'elle n'a le guère aujourd'hui partout en Europe, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme fiscal ou le shopping fiscal, puisque les grandes fortunes, qu'il s'agisse des grandes fortunes privées, des familles ou des grandes entreprises, se livrent à ce shopping fiscal en Europe. Donc, on souhaite que l'impôt sur les fortunes soit mis en place au niveau européen pour éviter cela. En même temps, il faut être parfaitement honnête. Le fait de le poser suppose que les États membres se mettent d'accord sur le fait de le créer dans chacun des États. Il suppose l'unanimité, même si désormais dans les traités européens, et je m'en réjouis, Jean-Claude Juncker a découvert qu'il existait une clause passerelle, même sur les questions de fiscalité, qui permettait de prendre des décisions à la majorité qualifiée. Mais nous fixons cet objectif-là. Le but, il est de dire que aujourd'hui, il y a une forme d'harmonisation de la fiscalité qui s'opère en Europe, par le bas. C'est-à-dire que l'impôt sur les bénéfices des sociétés baisse et que, de facto, les recettes des États sont en train d'être diminuées. Cette harmonisation fiscale par le bas, nous voulons lui opposer un modèle beaucoup plus vertueux qui est de créer un impôt sur la fortune européen, de tenter une harmonisation par le haut.
Concrètement, Benoît Hamon, de quelle nature serait cet impôt? Quel taux?
Ça dépend déjà de chaque État. L'objectif, c'est que si le principe d'un impôt sur la fortune européen...
Vous avez une idée derrière la tête.
Oui, moi, je souhaite que les prélèvements soient sur à la fois le patrimoine immobilier et immobilier. En France, on a sorti de l'impôt sur la fortune tout ce qui relève des richesses créées non immobilières, mais immobilières. Donc, dans les faits, on est aujourd'hui dans une situation où, là où on s'enrichit le plus, on ne paye pas d'impôt sur la fortune. Donc nous souhaitons qu'il y ait une assiette suffisamment large et qu'on tende, qu'il y ait une forme de serpent fiscal européen qui tende à la fiscalisation de la fortune partout en Europe pour éviter ce shopping fiscal.
Benoît Hamon, depuis plusieurs mois en France, une crise sociale d'importance est en cours et pourtant on n'a pas l'impression... En tout cas, on peut formuler cette hypothèse, peut-être ne serez-vous pas d'accord, que la gauche profite de cela dans les intentions de vote. Comment expliquez-vous ce décalage?
Mais la gauche n'en profite pas, vous pouvez le dire plus nettement. En tout cas, c'est dans les intentions de vote. Peut-être que lors du résultat du 26 mai, les choses seront différentes, mais dans les intentions de vote, ça n'est pas clair. Pourquoi ? Il y a plein d'explications, mais c'est vrai que dès lors que la question sociale et la question démocratique sont en tête des préoccupations des Français, le fait que la gauche soit pas au rendez-vous des intentions de vote nous interroge sur le déficit de crédibilité qui est celui de son projet. Un, elle est divisée, c'est incontestable. Si elle avait été plus rassemblée, c'eût été plus simple. Aucun geste n'a été fait par les partis politiques pour qu'elle le soit. Je rappelle que quand nous avons proposé une votation citoyenne, qui était un modèle original, démocratique, très innovant et moderne de rassemblement, tous les partis l'ont refusé. Deux, il apparaît que sur ces solutions, la gauche reste aussi très accrochée à un modèle qui est un modèle qui est celui des années 80-90. Que dit-on, plus ou moins de salaire, plus ou moins d'impôts, mais on ne change en rien le rapport qu'on peut avoir au travail, la prise en compte de la transition de la révolution numérique. Toutes ces questions-là restent des impensées d'une partie de la gauche. C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui qu'il y a un déficit d'abord de crédibilité sur le fond de la gauche. Et nous avons voulu au niveau européen, et c'est un point important que je veux souligner. Voyez-vous, le 27 mai, députés européens élus, nous n'aurons absolument pas à européaniser notre programme. Et je veux dire ici la chose suivante. C'est très frappant de voir qu'à quelques exceptions près, et elles sont peu nombreuses, la plupart de ceux qui viennent aux élections le font avec un programme franco-français, qui nécessitera d'être mis en confrontation avec autant d'autres programmes nationaux dans leurs groupes respectifs pour pouvoir ensuite construire une stratégie politique.
Justement, Frédéric
Nous avons beaucoup travaillé avant dans le printemps européen, et je le dis, c'est...
Le printemps européen, c'est votre alliance avec différents partis.
Absolument, la force de notre projet, elle est là. C'est que notre programme est déjà un programme européen immédiatement opérationnel.
Pour autant, vous entendez ce que dit votre compétiteur Raphaël Glucksmann. La question principale, dit-il, demain, c'est de savoir si le groupe majoritaire sera le parti conservateur ou le parti socialiste européen, le parti socialiste européen, groupe dans lequel sa liste, à lui, Raphaël Glucksmann, siégera s'ils sont élus. En d'autres termes, il vous accuse d'une dispersion qui peut permettre aux conservateurs de l'emporter. C'est une logique, vous, que vous rejetez ?
Je trouve qu'il pleurniche un peu.
Pourquoi il
D'abord, je m'explique. Le groupe socialiste européen, il aura comme candidat Frans Timmermans, actuel vice-président de Monsieur Juncker.
Candidat à la Commission.
À la Commission. Donc, ce que nous proposent aujourd'hui les sociodémocrates, c'est de poursuivre l'aventure avec un président de la Commission qui vient d'appeler à l'alliance avec qui ? Les libéraux d'Emmanuel Macron. Je le dis à Raphaël, sur ces questions-là, faut être sérieux. Faut être sérieux parce que c'est bien de faire des numéros de claquettes à Paris, et si c'est pour revenir aux mêmes équilibres qu'avant, à la même cogestion entre la droite et la gauche au Parlement européen et dans les institutions européennes, ça n'aura aucune espèce d'efficacité. Et je le dis sans sectarisme aucun vis-à-vis des libéraux ou des conservateurs. Moi, je les respecte, mais je crois au clivage entre la gauche et la droite. Et il me semble aujourd'hui que la responsabilité de la gauche, on évoquait tout à l'heure le fait qu'elle n'a pas de crédibilité aux yeux des Français qui protestent contre
qu'elle
le manque de démocratie.
Qu'elle n'a pas profité de la crise.
Mais pourquoi actuelle. Parce qu'elle est dans l'indifférenciation. Pourquoi ? Parce que si on a un programme puissant à gauche à Paris, mais que derrière on verse dans des stratégies qui sont des stratégies qui nous amènent à ranger ce programme une fois qu'on est élu pour co-gérer avec la droite, beaucoup plus forte que la gauche, le Parlement européen, les institutions européennes, tout ça nous mène dans l'impasse.
Alors ça, c'est pour Raphaël et pour Manon. Et pour Manon. Manon Aubry, la tête
mais non,
de,
mais non, mais
de la France
Insoumise.
Non, mais vous avez répondu à Raphaël Glucksmann, mais...
Non, mais là, je vois un point de désaccord, c'est tout. J'ai pas envie de régler mes comptes avec qui que ce soit, parce que la réalité, c'est qu'on a des désaccords stratégiques.
Non, mais il y a aujourd'hui une offre à gauche qui est pléthorique, on peut dire ça ainsi,
mais
Benoît Hamon.
Il y a 33 listes, donc dans l'absolu, bah,
elle est
pléthorique
aussi
partout.
Pléthorique à gauche.
Oui, non mais voilà, mais
alors,
elle
comment
est pléthorique
distinguer,
à droite, elle est pléthorique
comment
chez
distinguer,
les libéraux.
Pensez par exemple aux auditeurs de France Culture qui veulent faire leur choix entre ces différentes listes à gauche. Qu'est-ce qui vous distingue de la France Insoumise dans vos propositions ?
Moi je souhaite la révision des traités, mais je ne mets pas en option la sortie des traités et donc la sortie de l'Europe. Ça n'est pas une option ouverte pour nous. Les bornes dans lesquelles j'inscris le projet politique que nous défendons sont les suivantes. La première, sur la droite, c'est pas de coalition et de cogestion avec les libéraux et les conservateurs. Sur la gauche, si on le veut, si on pourrait dire les choses comme ça, pas, on jouera pas l'Europe au dé. C'est-à-dire qu'il y aura pas une stratégie qui dise, il y a une option selon laquelle la sortie des traités pourrait signifier la sortie de l'Europe. Voilà, dans ce large spectre, nous pouvons discuter avec la gauche et les écologistes. Mais je dis, ce point très important, Moi, je prends l'Europe très au sérieux. Au passage, j'étais très choqué hier d'apprendre que Madame Loiseau, sur une chaîne du service public, d'ailleurs une radio du service public, a dit que le programme de La République En Marche ne serait disponible que le 9 mai. Non mais, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux qu'elle puisse se revendiquer, elle, de la seule liste pro-européenne? Rendez-vous compte des conséquences d'un tel message. Il serait, sur 33 listes, les seuls pro-européens. Que cela signifie-t-il? Que tous les autres seraient des nationalistes, des souverainistes qui veulent remettre en cause le projet
sur
européen.
Le fond. Une dernière question, Frédéric Seitz.
Une dernière question, puisqu'on parlait sur le fond de vos divergences programmatiques avec la France insoumise. Il y a aussi une autre question sur laquelle vous vous distinguez dans votre programme. Vous souhaitez, vous, la création d'une défense européenne. Eux disent absolument pas, on n'en veut pas. En 2003, ils nous auraient envoyé en Irak s'il y avait une défense européenne. C'est Manon Aubry qui dit ça. Pourquoi vous souhaitez une défense européenne?
Bon, d'abord, je pense que c'est pas sérieux de dire qu'on veut sortir de l'OTAN et ne pas imaginer demain les alternatives sur le plan européen. Je pense aujourd'hui que la difficulté que nous avons, c'est que globalement, quand on prend la somme des budgets militaires de l'Europe, ils sont équivalents au budget de la Chine, sauf qu'il n'y a pas de coordination de ces armées, pas de capacité à agir ensemble. Moi, il me semble aujourd'hui qu'il faut tendre vers cette défense européenne comme une alternative, évidemment, au parapluie américain et au bouclier américain, mais comme le moyen de nous protéger à la fois de deux types de menaces extérieures, le terrorisme, mais d'autre part des menaces qui pourraient peser sur nos frontières. Ça me semble être le sens de l'histoire. Dès lors que l'on croit à l'Europe, et dès lors que l'on pense que l'intégration européenne doit faire l'objet de toute notre énergie, de tout notre volontarisme, plutôt que d'expliquer à chaque fois ce qui ne va pas pour continuer à, finalement, démanteler morceau par morceau le projet européen. Je ne veux pas dire ça à mes enfants, je le dis sérieusement. Je ne veux pas dire que la compétition, le retour aux nations serait l'avenir. Je crois encore à la coopération.
Merci beaucoup, Benoît Hamon, pour la liste Génération à 8h.
Printemps européen, 49. EDM 25.